gens qui s'étaient groupés pour renverser le gouvernement du Seigneur, qui a son représentant dans la Jérusalem terrestre. Et c'est là qu'a lieu la fin du monde, après les 1000 ans. Alors comprenez-le bien, quand on vous dit, est-ce que vous ne croyez pas que c'est bientôt la fin du monde? Qu'est-ce que vous répondrez? Non, ce n'est pas bientôt la fin du monde, c'est bientôt la fin d'un âge, la fin de cette période de la grâce où le Seigneur a appelé les hommes à se convertir à lui. Ça, c'est bientôt la fin, et cette fin aura pour terme le retour, le premier acte de son retour, sa venue à notre rencontre pour nous enlever. Ce n'est pas bientôt la fin du monde. La fin du monde n'a lieu qu'après le règne, car il faut qu'il règne et qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et quand le dernier ennemi sera aboli, qui est la mort, alors le Fils remettra le royaume à Dieu le Père. Donc le ciel et la terre passent avec un bruit sifflant, les éléments seront dissous et le ciel s'enroulera comme un livre, et c'est là que paraîtra dans l'infini ce grand trône blanc. Je l'ai fait rouge ici. J'avais pas. Ça vous auriez rien vu si je l'avais fait blanc. Alors, c'est le grand trône blanc, le jugement dernier. Si le jugement des nations a lieu au début du règne, le jugement dernier a lieu après le règne. Et c'est là qu'a lieu la résurrection des morts. Cette résurrection pour l'opprobre éternel, car c'est dans des corps de ressuscités que comparaîtront ces morts. Les grands et les petits, la mer rendit ses morts, le Sheol, le séjour des morts, rendit ses morts, et ils comparaissent devant le grand trône blanc où des livres furent ouverts, et ils furent jugés selon leurs œuvres. Comme il y a gradation dans les récompenses, il y a gradation dans les châtiment. Dieu sera parfaitement juste, mais tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, on constate simplement que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Donc justice, il y a une justice pleine et entière. Ils auraient pu être jetés directement dans les temps de tous. Non, ils comparaissent devant Dieu qui ouvre les livres, constate que ces morts, leurs noms ne sont pas écrits et toute bouche est fermée, et ils sont jetés dans cet étang de feu, où sont déjà la bête et les faux prophètes qui ont été jetés vivants, et où Satan est jeté lui aussi. Donc Satan ne règne pas sur l'enfer, Satan n'a aucun droit, aucun pouvoir, ceux qui sont avec lui sont ceux qui l'ont choisi. Mais le diable sera damné comme les autres, et il adorera le Seigneur comme les autres. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, la langue des êtres célestes, des êtres terrestres et des êtres infernaux. Ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont sous la terre, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Dans l'éternité, il n'y a que des louanges pour le Seigneur, même la louange des perdus, qui brûlent, non pas dans un feu semblable à celui-là, mais qui brûlent, si j'ose dire ainsi, d'amour, mais d'un amour qui ne peut pas être consommé. Il vaut mieux se marier que de brûler. Acceptez l'union avec le Seigneur aujourd'hui et vous serez avec lui dans la joie éternelle. Et après ce jugement dernier, c'est l'apparition du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et on voit la nouvelle Jérusalem qui, 1000 ans après son début, descend du ciel d'auprès de Dieu sur la nouvelle terre et qui entre ainsi dans l'éternité. La Jérusalem cubique que vous trouvez dans l'Apocalypse. C'est quelque chose de merveilleux. elle est dans un état de splendeur. Et là, enfin, il est dit que Dieu habite avec les hommes. Dieu fait son tabernacle avec les hommes. Il n'y a plus séparation du ciel et de la terre. Toutes choses sont réunies en un et Dieu est tout en tous. Fini toutes les dispensations, Dieu s'est servi de moyens extraordinaires. Que pouvons-nous dire en conclusion à ce grand thème? Il faut qu'il règne. Oui, le Seigneur prendra possession de son règne, mais quant à ses dispensations, quant à ses voies, aussi bien pour le monde que pour Israël, que pour l'Église, nous nous écrions au verset 33 du chapitre 11 des Romains, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors il n'y a plus que de l'adoration. Ceci termine donc ma réponse à cette question, puisque vous aviez demandé que nous reprenions la réunion de hier soir. Sur le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Question 3. On a répondu à 2.
Moi, j'aurais juste une question. Pendant le millénaire, lorsque il y aura des morts, est-ce que ces morts vont aller toutes à Dieu ou bien ils vont rester enterrés jusqu'à la fin du millénaire?
Eh bien, tu demandes si ceux qui mourront pendant le millénium iront tout de suite à Dieu, dis-tu, ou bien s'ils seront enterrés? Qu'est-ce que vous pensez? Que dit l'Écriture? Qu'est-ce qui mourra pendant le millénium? Les méchants, celui qui péchera. Il n'y aura plus la mort, là. Pendant le millénium, il y aura de nouveau la longévité. Ils approcheront des 1000 ans. Hein? Comme Noé, comme Adam, qui a vécu 930 ans, comme Méthusalem. Ils vont vivre tout le temps s'il n'y a pas de révolte dans leur cœur. Et à la fin du millénium, ils sont transmués et ils rejoignent les saints célestes. Eux aussi. Tandis que le méchant, eh bien, il va dans le séjour des morts pour ressusciter et comparaître devant le grand trône blanc au jugement dernier. Ça répond à ta question? Ben oui, celui qui aura 100 ans mourra jeune, mais parce que à 100 ans, il s'est révolté. Mais ben, à 100 ans, ben, il était encore jeune. Donc, il est retranché avant la fin. C'est pour ça que là, il n'aura pas achevé sa course. Il avait beaucoup plus à vivre. Mais le péché coupe. Parce que le changement dans cette dispensation pendant le règne, le Seigneur sera présent, le gouvernement sera céleste, il n'y aura pas d'injustice. De sorte que celui qui voudra s'élever contre ben, n'a pas d'excuse. Tandis que maintenant, Dieu patiente. Et le jugement ne tombe pas immédiatement, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Alors il nous donne du temps pour nous repentir. Est-ce que c'est la mort du méchant que je veux? Non, c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Et c'est un scandale pour beaucoup. On dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Oui.
Tantôt, j'avais dit que
Attention, hein, j'ai pris une image là. Une image pour vous montrer que, oui, je parle de l'échelle de Jacob pour montrer qu'il y a une liaison entre le ciel et la terre. Ce qui est maintenant n'est pas normal.
On a des scènes à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vivre sur la terre, servir le Seigneur dans le temple ou parce qu'ils vont être dans le temple à Jérusalem pendant 1000 ans?
Mais non, mais il sera, le Seigneur sera dans la gloire, mais il aura des relations avec tous les hommes, mais il aura ses ambassadeurs célestes qui conseilleront ceux qui gouverneront la terre. Il y aura un gouvernement terrestre. Le Seigneur aura son représentant qui est appelé le prince, mais je ne peux pas entrer encore dans tous ces détails. C'est dans Ézéchiel, n'est-ce pas, qui sera comme un vice-roi sur la terre, mais conseiller, hein, toutes ces éminences grises. Ce ne seront plus les anges qui administreront, puisque les saints jugeront les anges aussi. Il pourra y avoir sa manifestation quand il le veut, mais il sera partout.
On dit qu'on entend souvent dire qu'il y aura la nouvelle construction du nouveau temple de sacrifice sur la commande.
Ah oui, mais ça, ce sera comme commémoration de ce qui s'est fait avant. Ce ne sera pas pour renouveler des sacrifices. Ce sera comme nous prenons la Sainte Cène pour commémorer les saints pour qu'il y ait un enseignement pour ceux qui naîtront. Parce que justement, ceux qui naîtront dans le règne devront se convertir. Alors, il faudra qu'ils aient une école aussi, qui leur enseigne que c'est par le Christ qu'ils peuvent être sauvés, qu'ils pourront aller jusqu'à la fin du règne, jusqu'à l'état éternel. Alors, ils recevront une instruction, vous avez cela, l'enseignement pendant le millénium, vous l'avez dans le psaume 22, qui nous montre d'abord le Seigneur sur la croix, et puis après qui nous conduit jusqu'au millénium, verset 23. « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, c'est la bénédiction du millénium. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie, qui n'ont pas la vie en eux-mêmes, hein, mais qui l'ont du Seigneur. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Mais il faut les enseigner, les enfants. Alors, pour les enseigner, il y aura ce rétablissement des sacrifices, mais qui seront commémoratifs. Ce n'est pas par les sacrifices qui seront faits qu'ils seront sauvés, mais ils seront sauvés par le sacrifice qu'a accompli le Christ. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et alors, tu as dans un chapitre qui est cher à nos amis d'Israël, le chapitre 2 d'Ésaïe, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Il y aura des instructeurs. car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est pour ça que Jérusalem est appelée à devenir la métropole universelle. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leur glaive, ils forgeront des socs ou des hoyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre l'autre, elle n'en apprendra plus la guerre. Et alors, au point de vue de la délivrance du terrain, on a des choses merveilleuses. Et sur ce retour en gloire du Messie, dans le chapitre 11 d'Ésaïe, c'est les temps messianiques. Si vous avez dans le 53 d'Ésaïe la description du Messie souffrant, du serviteur de l'Éternel, il y a 4 péricopes dans Ésaïe qui nous montrent le serviteur de l'Éternel. C'est toujours le Seigneur. Mais lors de sa première venue pour régler la question du péché, maintenant, voulez-vous lire quelque chose de ces 1500 passages concernant son retour en gloire? Vous avez le 11 d'Ésaïe. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère de Grimby se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Quelle vision ça! La vache et l'ours auront un même pâturage. Vous voyez ce mariage? Une vache et un ours. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et alors, pas besoin d'un petit chat. La vipère, ça suffira. Pour que l'enfant puisse jouer. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le courent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Puis alors, vous avez des pages entières qui nous montrent justement cette prospérité du sol. Car quand on nous dit que le désert reverdit déjà, bien vous savez, moi j'ai vu cette année des villes mourantes, je les ai vues naître. J'ai vu le commencement en 58 de ces maisons qui se construisaient d'une ville qu'on bâtissait. Je les ai vues habiter, puis maintenant je les vois vides. C'est des villes fantômes à cause de cette fameuse alliance avec l'Égypte. Ils doivent partir et ils sont désespérés. Et ça vous laisse parce que les Égyptiens ne reprendront pas ce travail-là. Alors ce sera des villes nouvelles qui deviendront des ruines. Pour l'instant. Vous voyez, alors le roi règnera selon la justice, Ésaïe 32, les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre aride. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite. vite et nettement. Ce sera beau, hein? Ça va parler vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Et dans le chapitre 35, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée et la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Ce serait bien pour notre Jocelyne. Hein? Et la langue du muet éclatera de joie, et des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, et la douleur et le gémissement s'enfuiront. C'est pas beau? Est-ce que nous ne pourrons pas désirer son règne et dire malgré tout que ton règne vienne? Si ce n'est pas pour nous, nous pouvons le dire pour les autres, hein? Pour qu'enfin cessent ces abominations et ces injustices. Voilà, vous avez encore d'autres questions?
Le peuple juif doit enlever, mettre en revient pour arrêter la guerre d'Armageddon. Les Juifs vont se tourner vers Dieu, ils vont réaliser qu'ils sont perdus sans Dieu. C'est là que Dieu va descendre avec les autres, avec son corps, pour les délivrer de leur emprise avec les nations qui vont être rendues au lieu que vous avez dit dans la vallée
de Megiddo.
Oui, Megiddo. Ça va dire que le peuple juif va être enlevé avant le millénium.
Ah non, il y a encore de la confusion, mon cher. Oui, mais je comprends qu'il y ait un peu de confusion, mais j'espère que ce n'est pas moi qui ai été trop confus. Mais il n'est pas parlé du peuple juif qui sera enlevé. Quand le Seigneur viendra pour délivrer Sion, eh bien le peuple se tournera vers le Seigneur, et vous avez le secret de sa conversion, c'est que dans la souffrance, le peuple juif se repentira et découvrira, ils se tourneront vers le Seigneur, ils reconnaîtront en lui celui qu'ils auront percé, et alors ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, le fils unique de qui? Du Père, de Dieu, et comme un premier, on se lamente sur un premier-né, le premier-né de qui? de Marie, la mère de notre Seigneur qui met au monde Jésus, son premier-né. Et tout ça, c'est déjà dans Zacharie, de sorte qu'ils n'ont pas même besoin du Nouveau Testament pour se convertir. Car le Christ, le Messie, est dans l'Ancien Testament. Et toute son histoire, les deux aspects de sa venue, nous sont manifestés. Alors, ils sont délivrés et ils entrent dans le royaume, dans le millénium. Tu comprends? Ils entrent dans le millénium. Et puis, les nations sont jugées et ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, bien, il leur est dit, venez les bénis de mon Père, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et voilà, ces gens s'écrient, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Ils n'ont pas même entendu vraiment, peut-être, parler du Seigneur, mais ils ont eu une attitude qui était vraiment une attitude honorant le Créateur. Et le Seigneur leur dira, en tant que vous avez fait cela, un de ces petits qui sont mes frères, vous l'avez fait à moi. Pas simplement parce que vous avez fait cela à des Juifs, mais il y a des gens qui seront convertis et qui seront sauvés sans avoir eu la connaissance du Seigneur, mais ils l'auront alors, ils sauront qu'ils sont sauvés quand le Seigneur leur révélera que c'est lui qui les a sauvés et que ce qu'ils ont fait au prochain, c'était à lui-même qu'ils ont fait. Mais pour étayer tout cela, ce jugement des gens qui seraient morts dans le passé sans avoir entendu parler du Seigneur et que vous vous dites, mais alors, s'ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur, ils sont perdus? Ah, n'allez pas dire que celui qui vous a prêché l'universalisme, c'est pas cela. Mais je vous dis qu'il n'y a point d'injustice en Dieu, et que ceux, selon le deuxième chapitre des Romains, qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, ne seront pas jugés comme ceux qui ont entendu parler de lui. C'est pas la même base du jugement, et qui ne seront pas jugés comme les Juifs qui avaient la loi. Ceux qui sont morts sous la loi seront jugés par la loi. Ceux qui sont morts baptisés seront jugés par les connaissances qu'ils avaient du christianisme. Et ceux qui sont morts païens seront jugés par leur conscience. Mais tous apprendront qu'ils sont sauvés par Jésus, par le sacrifice unique de Jésus-Christ, qui n'est pas mort seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Alors, vous voyez comme il ne faut pas restreindre le salut à ce petit salut que vous avez expérimenté, vous, et en vous disant, ben les autres, ils doivent être sauvés comme moi, j'ai été sauvé. Le Seigneur a ses moyens, et ce que vous pouvez croire et être certain, parce que sinon ça ne serait plus du vrai Dieu que vous parlez, c'est que Dieu n'a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice en lui. Il a tout prévu. Et s'il y a quelque chose qui vous trouble, eh bien priez, et ce n'est pas moi qui vous répondrai, c'est le Seigneur qui vous donnera une conviction. Oui?
Tu dis à Nicodème qui dit à ce moment-là, ça n'avait pas le moyen de sa vie. Puis, il y avait les œuvres, puis il y avait quand même une crainte de Dieu assez remarquable, parce que ça mettait un souci à ses yeux. On sait que, plus tard, on sait que Nicodème, on voit qu'il avait quand même un bon cœur, il était pas, il était mauvais comme tout le monde, mais je veux dire, il avait des bonnes dispositions envers Dieu, des vertueux, si on peut dire. Puis, on voit Jésus quand même qui nous dit, si tu n'es pas nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Donc, on ne peut pas appliquer ça, ce verset-là.
Nous n'allons pas entrer en discussion là-dessus, parce qu'il faut voir ce que Jésus dit à Nicodème lui-même pour son temps. Et voir ce qu'il dira lui-même aussi à ceux qui n'ont pas eu le privilège de Nicodème. Nicodème vient avec toutes ses prétentions, avec toute sa religion, et il pense que tout est bien pour lui. Alors, si je viens avec mes prétentions et ma religion, qui ne me sauve pas, le Seigneur me montre ce qui m'est nécessaire. Avec toute ta religion, t'es perdu, il faut que tu naisses de nouveau. Et le Seigneur ne parlait jamais aux prostituées et aux pécheurs comme il a parlé aux pharisiens. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais quand il rencontre des gens qui se disent justes, il leur enlève leur assurance. Et il leur dit, les prostituées, ouais, c'était le thème que nous avons traité au camp Maranatha, ici, que dirigeaient Françoise et Josaphat. Voilà, je crois que nous pouvons nous arrêter là, ou bien vous avez encore d'autres questions. Mais vous le questionnerez lui-même.
Et...
Pourquoi je t'applaudis?
Bonne question.
Ils essayent de me coller. Alors on demande si Judas aurait pu se convertir. Ah oui, mais donc il aurait pu. Mais il était trop orgueilleux pour aller à Jésus et se représenter devant lui. Pierre avait commis une faute aussi grave que celle de Judas. Mais il s'est représenté. Et c'est humiliant de se représenter quand on a trahi, quand on a vendu son maître. Mais la dernière occasion qu'il a eue pour se tourner vers le Seigneur et voir que le Seigneur l'aimait, c'est laquelle? Je te salue, maître. C'est ainsi que tu trahis le Fils de l'homme par un baiser, mon ami. Le Seigneur a tout fait pour Judas. Il s'est endurci. Et il est mort dans son péché. C'est ce qui nous arrive quand on s'endurcit. C'est comme le Pharaon. Mais il a eu toutes les occasions pour se juger de sa tendance. Et bien sûr que le Seigneur, connaissant ce que Judas ferait, peut dire de toute éternité ce qui en serait. Mais je ne suis pas de ceux qui disent que le Seigneur les a prédestinés à la perdition. Oui. Et je ne suis pas calviniste dans ce sens-là.
Dans la même veine, j'ai toujours pas compris le verset 5 du chapitre 5 de Corinthiens, qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.
Oui. Alors, là, qu'un tel homme, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, il est parlé de celui qui vivait dans l'inceste à Corinthe, puis qui s'approchait quand même de la table du Seigneur. Et il semble que cet homme vivait avec sa mère, hein? Ou en tout cas la femme de son père, qui n'est peut-être pas sa mère naturelle, mais une belle-mère, c'est ce qu'on veut, hein. Mais c'est l'inceste quand même. Alors, est-ce que dans l'Église primitive, où tous ceux qui se convertissaient au Seigneur devaient avoir un témoignage au sein du paganisme, est-ce que l'Église pouvait laisser un tel état de choses? Tout le monde savait que cet homme vivait d'une façon irrégulière. Et alors, l'apôtre leur dit qu'ils doivent retrancher le méchant du milieu d'eux-mêmes, puisqu'il a ce caractère de méchant. Et il dit que lui, il a pensé livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair. Vous voyez que quand Dieu permet à Satan d'éprouver Job, c'est comme s'il livrait Job à Satan. Mais s'il l'a livré à Satan, c'était pour la destruction de sa suffisance, parce qu'il se savait pieux, parce qu'il se savait agréable à Dieu, et Dieu a permis ces épreuves. Mais il lui dit, jusque-là, mais pas plus loin, tu ne toucheras pas à sa vie. Et alors, là, Paul est allé plus loin. Lui, il avait pensé qu'un homme comme ça ne pouvait plus avoir un témoignage et qu'il devait mourir. La destruction de la chair, eh bien, c'était la mort. Afin que son esprit, bien, il ne met pas en doute son salut final, mais il ne peut plus être un témoin. Et alors, moi j'ai entendu un pasteur de Philadelphie, un grand théologien, il est venu chez moi à Nice, puis il avait donné un cours justement sur le péché qui mène à la mort, justement à la mort du corps. Il y a des péchés qui font que nous ne pouvons plus être témoins. Alors nous sommes retranchés. Ananias et Saphira, je ne dis pas qu'ils sont perdus, n'est-ce pas? Mais ils ne pouvaient plus être des témoins. Au début de l'Église primitive, on ne pouvait pas tolérer le mensonge. Maintenant, et ce mensonge venait d'où? C'était une dissimulation et une imitation. Ils ont dépassé la mesure de leur foi. Ils ont vu Barnabas, le fils de consolation, qui vend un champ et qui en apporte le prix aux apôtres. Alors eux, ils disent, ça fait quand même bien, hein? Alors on va faire la même chose. On veut aussi vendre le champ. Et ils le font. C'était pas une obligation pour eux. Personne ne leur avait demandé ça, mais ils veulent imiter quelqu'un qui a fait un beau geste. Hein? Je vais le faire aussi. Mais voilà qu'on n'a pas la même foi. Alors tout à coup, ils se disent, oui, mais au lieu de donner le prix entier, on devrait se réserver une poire pour la soif. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors ils prennent une part pour eux, mais ils viennent vers les apôtres, puis ils disent, voilà, nous avons vendu le champ, et nous apportons le prix du champ. C'est là qu'ils mentent. C'était OK. Tu comprends? Il n'y avait pas de dissimulation, mais ils ont fait croire qu'ils donnaient le prix du champ. Et alors, ils s'étaient entendus entre eux, c'était avec sa femme, ils s'étaient mis d'accord, et c'est Ananias qui est venu le premier, sa femme était à la maison, et il est venu, puis il a donné ça. Alors, Pierre lui dit, est-ce que vraiment tu as payé, tu as vendu ce champ pour tant? Oui, bon. Alors, il dit, comment as-tu pu mentir? À qui? Au Saint-Esprit. Et notez bien que c'est pas Pierre qui l'a fait mourir. Mais en entendant cette parole, il tombe mort. La femme arrive. Puis il lui demande, dis-moi, est-ce que vous avez vraiment vendu le champ pourtant? Oui. Alors, voici les pieds de ceux qui viennent d'emporter ton mari, sont là pour t'emporter, toi aussi. Puis la femme meurt parce que ils sont, comment est-ce qu'on dit?
Complices.
Ils ont fait ça, oui.
Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi avec modestie, dans l'amour et la sainteté.
Il y a, on demande donc, la question c'est sur Timothée chapitre 2, elle sera sauvée en devenant mère, la femme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il vous faut reprendre le contexte, voir ce verset à la lumière de l'Épître et toute cette Épître à la lumière de toutes les Écritures. Une femme qui est enceinte depuis la chute est sous une menace. Et le mari le sait très bien, parce qu'il a aussi, même s'il n'a pas, lui, les douleurs de l'enfantement, il a certaines douleurs d'entrailles parce qu'il a peur de perdre sa femme. Il y a une menace de mort depuis la chute sur toutes les femmes enceintes. Et cela pourrait les paralyser. Mais le Seigneur montre que même en devenant mère, elles seront sauvées. Ce n'est pas du salut de l'âme qu'il est question. C'est du salut physique. Sans aucune femme n'oserait envisager l'accouchement, parce qu'il y a là une menace de mort. Et pour la femme qui est sous cette crainte, sous cette angoisse, eh bien, elle a ce texte et l'ensemble de l'écriture auquel elle peut s'accrocher pour traverser cette phase difficile et douloureuse où l'ombre de la mort plane là où va naître la vie. Elle sera sauvée en devenant mère, alors que les femmes qui deviennent mères qui sont sauvées, et c'est pas parce que vous avez une maternité que vous êtes sauvées, vous comprenez bien. Mais en devenant mère, vous risquez la mort. Mais le Seigneur vous promet que vous pouvez avoir la vie et que vous ne vous souviendrez plus des souffrances de votre grossesse quand vous aurez cet enfant dans les bras. Tellement vous aurez de la joie qu'un homme est né dans le monde, que vous ne vous en souviendrez plus alors que vous avez dit c'est la dernière fois, je ne recommencerai pas. Et puis voilà, qu'au bout d'un temps, vous vous dites ça serait quand même bien que mon petit ait une petite sœur, ou un petit frère, parce que ça fera fils unique. Et puis vous repasserez par la même épreuve. Voilà. Bien, je crois que nous allons terminer, hein, parce qu'on pourrait y rester longtemps. Quelqu'un veut-il rendre grâce à haute et intelligible voix ?